Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. He left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie.
Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous podcast sur les antennes de Touchdown Actu, rendez-vous podcast draft, bien entendu, 490e numéro. On se rapproche à grands pas de la 500e et on se rapproche surtout à grands pas de la draft NFL prévue à la fin du mois d'avril. On ne s'approche pas puisqu'on est en plein au début du scouting combine qui se déroule actuellement du côté d'Indianapolis. J'allais dire comme chaque saison. Hein. On rappelle que l'année dernière, il y avait un petit hiatus, bien entendu, en raison de la crise sanitaire. Mais sinon, c'était une tradition annuelle et ça le redevient donc en 2022. Et on va en profiter dans cette émission pour s'intéresser désormais à la défense qui sont les principaux, en tout cas qui est le principal colosse sur la ligne défensive de Georgia, qui est le cornerback le plus dissuasif du côté de Washington. Quelle classe est la plus profonde entre linebacker et safety? On fera également un gros focus sur les edge rushers qui s'annoncent assez dense également lors de cette QV 2022. C'est toujours un poste extrêmement recherché et cette saison ne fera pas exception à la règle, en déterminant notamment les possibles premiers tours et en s'intéressant notamment au statut actuel et aux cotes qui grimpent pour Trevon Walker, le edge rusher de Georgia, et pour Jermaine Johnson, edge rusher de Florida State. Pour m'accompagner comme la semaine dernière à l'occasion du podcast sur les dilemmes attaques, Victor Houllier est en ma compagnie. Salut Victor.
Salut Grégory, salut à tous.
Très heureux de t'avoir avec moi. Je précise, hein, bien entendu, parce que tu seras assez nettement concerné. Il y aura, bien entendu, outre les articles de présentation du Combine que vous avez déjà retrouvés sur le site, des articles de débrief du Combine. Il y aura, bien entendu, un podcast également Combine prévu la semaine prochaine dans le cadre du podcast Draft, dont tu devrais te charger, a priori, avec Jean-Michel, si ça ne change pas d'ici... Là, on lance donc les hostilités tout de suite en s'intéressant au poste de cornerback avec notamment les deux prospects de Washington.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Ce n'est pas forcément les deux cornerbacks dont on parle le plus, mais comme souvent, les Washington Huskies nous fournissent pas mal de defensive backs de qualité. Cette saison ne fera pas exception à la règle également, avec notamment Trent McDuffie et Kyler Gordon. Alors, je vais présenter rapidement les profils et notamment les stats. Trent McDuffie, donc en 2021, c'est 35 plaquages pour 6 passes défendues. Un sac et zéro interception. Ouais, je ne sais pas pourquoi chercher cette stat-là. Je pense qu'on va peut-être rebondir sur cette statistique tout à l'heure. Et en l'occurrence, Kyler Gordon, de son côté, en 2021, c'est 45 plaquages pour 7 passes défendues, 2 interceptions et un fumble forcé. On va le dire tout de suite, Victor, ça n'a pas été une saison très heureuse pour Washington, notamment offensivement. La défense a quand même eu sa part de réussite malgré tout dans cette saison un petit peu compliquée. Et on peut quasiment dire que les deux meilleurs joueurs de Washington ont été les deux cornerbacks dont on va parler.
Clairement, McDuffie et Gordon ont été un peu les deux phares dans la nuit d'une saison très compliquée au global pour Washington. On a deux profils un peu différents. McDuffie, ça fait un moment qu'il est regardé par beaucoup de monde. Alors, il monte dans les boards, il peut être cornerback numéro 2, numéro 3, numéro 5. Ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est l'appréciation des gens. Mais il est là. Gordon, ça a été plus une révélation vraiment cette année. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas beaucoup de lui avant le début de la saison. Et en fait, chaque semaine, on se disait, mais en fait, il faut le mettre dans la boucle, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus titiller les top 50. Il est dans tous les top 100. Donc, je crois qu'il est dans le top 50 de Jeremiah qui a sorti hier. Donc, c'est clairement un joueur tendance. Mais oui, ils sont un peu différents. Ce n'est pas des copier-coller. Mais pour autant, ils ont chacun des grosses qualités qui font qu'à mon avis, ils vont être haut dans la draft.
Alors, présente-nous justement un petit peu Trent McDuffie. Je crois savoir que ça fait partie notamment d'un de tes cornerbacks préférés de cette QV. Qu'est-ce qui notamment t'inspire le plus confiance quand tu le vois évoluer?
Oui, aujourd'hui, j'ai cornerback numéro 2, même si entre 2 et 5, ça peut encore bouger. C'est très homogène, il n'y a que le 1 qui ne bougera pas. Pour moi, Trent McDuffie, il est, on va le dire tout de suite, un petit peu petit par rapport aux critères, on va dire, classiques de NFL. Mais pour autant, c'est un super athlète. Il n'a pas l'air d'avoir des petits bras ou quoi. Il est juste en taille un peu petit. C'est un plaqueur incroyable. Je pense qu'on peut, sans vraiment de débat, dire que c'est le meilleur cornerback de la classe quand il s'agit de défendre la course. C'est vraiment, il ne loupe jamais, il a un instinct, il se projette vers avant, ce qui est très rapide, une grosse explosivité, et il va chasser le coureur avec aisance. Après, très intelligent dans la couverture, forcément un peu limité. Par contre, si vous avez une équipe qui joue que en presse, c'est sûr que ce n'est peut-être pas l'athlète qu'il vous faut pour dérouter, je ne sais même pas si c'est français, mais pour, on va dire, embêter le receveur au début de sa course. C'est sûr qu'il ne sera peut-être pas idéal, mais dans un schéma plus zone, il fait des merveilles. Vas-y, une chose qui est… Enfin, je finis juste sur un petit bémol là-dessus. Une chose qui est un peu frustrante avec lui, par contre, c'est un manque de production, notamment au niveau des interceptions. Ça, c'est évident. On a l'impression qu'il peut faire plus, mais il a quoi ? Il a 2 interceptions en 3 saisons, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, il n'a pas pris un touchdown depuis 2019. Donc, il n'est pas spectaculaire, il n'est peut-être pas playmaker, mais il n'encaisse pas. Pour autant, il faut quand même se dire qu'en 2021, il a joué 702 snaps, il a encaissé 111 yards. C'est juste c'est incroyable. Par contre, c'est vrai qu'il manque, pour être vraiment un phénomène, il lui manquerait ce côté playmaker. OK, fini l'action. Tu es là, tu arrives à gêner le receveur, tu arrives à couper les courses, mais il faut faire l'interception. C'est le seul truc qui est un peu frustrant avec lui pour moi.
Oui, c'est ça. Alors, je ne vais pas répéter tout ce que tu as dit, mais c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes dans le sens où, en effet, alors, de toute façon, pour compléter ce que tu dis, c'est rare les cornerbacks qu'on annonce au premier tour qui n'ont pas une certaine densité physique à leur actif. Donc, c'est clair que de toute façon, Trent McDuffie, ce coffre-là et cette capacité, cette aptitude qu'il peut avoir à apporter du soutien rapide et surtout précis au plaquage et sur le run-stop, c'est quelque chose qui sera éminemment recherché de la part des franchises NFL. Là où je te rejoins, alors d'un point de vue production, c'est vrai que ça me rappelle un petit peu le cas de Greg Newsome l'année dernière, qui avait en plus un historique de blessure qui était à surveiller. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas de Trent McDuffie. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, je te rejoins, où en effet, on était vraiment sur un joueur très propre, très solide, mais pas forcément un playmaker capable de faire payer cash, on va dire, les incertitudes des quarterbacks adverses, même si voilà, j'ai aussi dans l'idée que dans la Pac-12, il y en a beaucoup qui ont aussi peut-être cherché à jouer de l'autre côté plutôt que de se risquer sur McDuffie au bout d'un certain temps. Et si je reprends les comparaisons avec des anciens joueurs de Washington, ce que je le disais tout à l'heure, les defensive backs, ils ont sorti quelques-uns avec plus ou moins de succès, hein, puisque ça peut osciller de Kevin King à Byron Murphy, à Sidney Jones, etc. Moi, dans son aptitude, je trouve que c'est un joueur très intéressant face au jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas le joueur forcément qui va être hyper à l'aise sur de la couverture en man, mais par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que c'est là où il est plus intéressant en zone. C'est qu'il a une capacité à être extrêmement réactif, il a un très bon QI foot et il est capable de couvrir une zone du terrain assez large de par justement sa lecture de jeu et sa capacité à monter très très rapidement. Et dans ce sens-là, je trouve qu'il me rappelle un autre ancien joueur de Washington qui était Desmond Trufant, qui avait des défauts, qui avait une certaine, enfin, qui avait une production assez relative également, mais voilà, qui était un solide premier tour, qui a été un solide titulaire en NFL. Et Trent McDuffie, je pense, a cette capacité à pouvoir apporter, mais du coup, forcément, dans, enfin, c'est peut-être plus pour compléter ce que tu dis et pour revenir sur les bémols. Du coup, c'est peut-être plus la versatilité, si je peux parler ainsi, qui va poser problème. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas pouvoir s'intégrer dans tous les schémas NFL et il va peut-être pas forcément plaire à toutes les équipes, ce qui peut, en l'occurrence, faire descendre un petit peu sa cote.
La polyvalence. La versatilité,
oui.
C'est tu traduis versatile, mais.
Oui, écoute, je suis franglais.
C'est ce que je vois. Non, mais tu vois, quand on pense à des défenses comme les 49ers, où il y a, si je ne dis pas de bêtises, quand même beaucoup de zones, ça peut fitter sur ces défenses-là. Mais oui, c'est un joueur, on peut très bien imaginer une équipe qui te dit, bah, moi, je considère qu'en talent pur, c'est le cornerback numéro 2, par exemple, mais il y a 4 cornerbacks qui vont mieux dans mon système que lui. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça serait pas choquant pour eux.
Un petit mot sur Kyler Gordon, du coup, si tu devais mettre en avant peut-être une qualité, un défaut particulièrement dans ce que tu as pu en observer.
Alors, Kyler Gordon, il est un peu plus gros, même si, bon, c'est pas non plus... c'est pas un frigidaire, hein, mais c'est plus brut. Il y a un potentiel athlétique qui est absolument phénoménal, que ce soit en termes de vitesse, de réactivité, de changement de direction, de vraiment déranger l'attaquant adverse. Il y a une polyvalence.
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir dessus. C'est, lui, pour le coup, il a peut-être plus été utilisé sur différents secteurs de jeu, on va dire, du côté de la défense de UW, comme on dit.
C'est sûr, il a été utilisé. Bah, déjà, il a été pas mal en slot hein, dans sa carrière là-bas. Et puis, oui, il va jouer du press plus souvent que son coéquipier. Il va jouer du homme à homme, il va jouer de la zone. Non, globalement, il est assez polyvalent. Et c'est un joueur, pour moi, je disais, on en rigolait un peu avant le podcast, qu'on disait c'est nouveau Matthew Sutter, mais je pense qu'il aura un bien meilleur impact sur le terrain. Mais par contre, c'est un joueur d'équipe spéciale absolument génial. Gordon, de année 1, c'est ton gunner titulaire et ça peut être par exemple ton slot cornerback. Et s'il se développe bien, bah, pourquoi pas en faire un cornerback extérieur.
Oui, un bon numéro 2. Je ne sais pas si ce sera vraiment un shutdown par rapport à... Enfin, si on prend le fameux label, hein, encore une fois, on peut être un bon corner numéro 1 sans être ce qu'on appelle vraiment un shutdown corner. Donc, un joueur qui se fait respecter quasiment sur chaque lancée dans cette direction. Mais c'est sûr qu'en effet, Kyler Gordon peut être vraiment un gadget, c'est réducteur, mais vraiment peut être extrêmement utile à plus d'un titre pour l'équipe qui est susceptible de le drafter. Et je trouve qu'en effet, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, il est sophomore hein, comme mec de fille. Hein, c'est deux joueurs qui en l'occurrence n'ont pas non plus un cursus universitaire très très avancé. Donc c'est aussi ce qui peut on va dire faire saliver certaines équipes. C'est-à-dire que malgré tout, le plafond reste quand même relativement élevé. On n'a pas la sensation d'avoir vu encore tout ce qu'on pourrait avoir de ces deux hommes. Et c'est vrai que Kyler Gordon, pour le coup, alors c'est vrai que c'est uniquement en 2021, tu le disais, mais c'est vrai qu'il y a plus d'interceptions, par exemple, au compteur. Il y a plus cette aptitude à être un playmaker, même si, à mon sens, on l'a peut-être plus tenté que McDuffie cette saison. Mais donc voilà, c'est peut-être également ce qui va faire que des équipes vont être tentées. Je prenais l'exemple de Kevin King tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que Kevin King, c'était avant tout un cornerback numéro 2 qui s'est imposé par son côté vraiment hyper physique. Alors, beaucoup plus physique que Kyler Gordon, je trouve. C'est là où on va voir si éventuellement Kyler Gordon peut avoir une étiquette de premier tour aux yeux de certaines équipes, comme ça a l'air d'être évoqué ici et là. Hein. Bon, après, on connaît le jeu des mocks. Hein. On va pas détailler plus que ça. Hein. Des fois, c'est pertinent. Des fois, ça l'est peut-être un petit peu moins. Mais voilà, il faudra essayer de juger au cours des prochaines semaines, au cours de son combine notamment, voir comment il arrive à tirer justement partie de ses qualités athlétiques et de cette aptitude à savoir faire beaucoup de choses et ce qui va être capable de démontrer qu'en effet, il a le coffre pour pouvoir assumer toutes ces assignations qui pourraient lui être proposées.
Ah, je suis d'accord avec toi, mais quand tu dis premier tour, bon, c'est peut-être un peu exagéré comme tu le rappelles. Mais par contre, une chose qu'on peut dire et qui n'était peut-être pas le cas il y a encore 6 mois, enfin qui n'était même pas le cas du tout il y a 6 mois, c'est qu'on le voit mal sortir après le deuxième tour.
Ah oui,
ça semble être son évaluation là où voilà, c'est... c'était pas forcément gagné d'avance.
Si tu veux, on va pas faire toute la hiérarchie des corners, je pense qu'il y a encore le temps pour le faire. Mais c'est vrai que, par exemple, je trouve qu'il marque des points par rapport à un Kyrie Lam, par exemple. Donc, on aura sûrement l'occasion de développer un petit peu plus le corner de Florida, mais qui était attendu aux alentours du début de deuxième tour. Il peut se tirer la bourre pour l'instant dans ce profil-là. Et j'en avais parlé notamment en amont du Senior Bowl, qu'il y a toujours des profils athlétiques qui sortent un petit peu du chapeau, des LJ Collier, je parlais de Kevin King il y a quelques secondes, enfin, on en a toujours un petit peu des Peyton Turner, des joueurs qui sortent un petit peu de nulle part, sur des postes bien spécifiques, notamment ou pass rusher ou cornerback en défense. Et c'est vrai que j'avais cité Alante Taylor de Tennessee, Kyler Gordon peut rentrer dans ce cas de figure-là, même si je trouve qu'il a peut-être pas le physique, encore une fois, d'Alante Taylor. Mais encore une fois, il sait faire beaucoup de choses. Donc, s'il y a une équipe qui estime que vraiment ça peut valoir le coup d'investir sur lui pour à moyen terme en tirer quelque chose d'assez intéressant, comme tu le disais, en tout cas avoir un corner performant et en défense et sur équipe spéciale, pourquoi pas. Mais on est d'accord là-dessus, on est tous les deux d'accord sur le fait qu'il faut quand même relativiser éventuellement ce statut-là le concernant. Ce n'est pas forcément un premier tour à l'heure actuelle me concernant. Du coup, c'est un pseudo-dilemme, hein. C'est surtout pour présenter les deux joueurs qui sortent de la même université, faire un petit peu une idée des capacités des deux bonhommes. Si je te demande si tu choisis entre McDuffie et Gordon, j'imagine qu'il n'y a pas d'hésitation possible.
Non, pour le coup, je choisis McDuffie. Mais voilà, avec quand même ce bémol de dire, voilà, ça dépend ce que votre équipe préférée joue en défense, quoi. Donc, si votre équipe préférée joue constamment en presse, allez voir d'autres joueurs, allez voir du Gardner, du Booth, ouais, des choses comme ça. Bon, même si Gardner, moi, je l'ai clairement cornerback numéro 1, je pense qu'il partira vite. Mais il y a d'autres profils qui peuvent intéresser. Donc, oui, je le prends en premier, après avoir le schéma.
Ouais, McDuffie aussi de mon côté. Je dis Gordon, ça peut jouer de la zone également. De toute façon, c'est globalement dans ce système-là qu'ils ont évolué du côté de Washington. Donc, on sait très clairement ce qu'on peut en attendre. Après, voilà, tu le disais aussi, il y a peut-être un physique un peu plus dissuasif du côté de Gordon et une capacité à jouer sur l'intérieur qui peut peut-être éventuellement lui permettre d'être exploitable dans plus de systèmes à l'échelon supérieur. Ça va être à surveiller en ce sens. On passe à présent à la ligne défensive. Et là encore, on va pas être d'accord, mais je pense que le désaccord est peut-être plus tranché, puisqu'on va parler de la ligne défensive de Georgia. Il y a deux cas assez épineux dans cette. On rappelle, hein, les Georgia Bulldogs, champions national, hein, cette saison, avec notamment une défense absolument phénoménale. On retrouvait notamment Nakobe Dean au poste de linebacker, Lewis Sean au poste de safety. Trayvon Walker, dont on va parler un petit peu plus tard, le edge rusher, mais il y a notamment cette ligne défensive extrêmement dissuasive du côté de Georgia qui est à mettre en avant avec deux personnes, alors j'essaie de retrouver les stats assez rapidement, qui vont nous intéresser. Donc on a Jordan Davis, je vais le rappeler parce que je sais que ça te fait plaisir, meilleur défenseur de la saison de college football en 2021, donc Jordan Davis nose tackle, et puis à ses côtés on a également Devontae Wyatt, lineman défensif. Alors si je retrouve les statistiques très rapidement, il y a un peu plus de snaps en l'occurrence pour Devontae Wyatt cette saison. Devontae Wyatt donc en 2021, c'est 39 plaquages et dont 7 pour perte, c'est important sur la position, 2 sacs et demi, 2 fumbles forcés et un fumble recouvert. Donc ça c'est les stats de Devontae Wyatt. Pour Jordan Davis, on est au niveau des stats sur un 32 plaquages dont 5 pour perte, 2 sacs et une passe défendue au passage. Il y en a une pour Devontae Wyatt aussi que je n'ai pas cité. Là aussi, ce n'est pas exactement le même profil. C'est deux joueurs qui ont été extrêmement dissuasifs sur la D-line de Georgia, Victor. Maintenant, on est aussi sur deux gabarits assez différents, ce qui explique aussi leur utilisation différente du côté d'Athènes.
Oui, bah, si on parle de celui qui est un peu le nom quand même le plus connu, parce que tu as dit meilleur défenseur de l'année, c'est un joueur dont on parle beaucoup. Jordan Davis est plus un nose tackle ou alors un gros, un technique dans une 4-3. C'est le gros bonhomme. Mais pour le coup, Jordan Davis, je trouve qu'il a des très grosses qualités et des très gros défauts. C'est pour ça que pour moi, il est clivant. C'est puissance physique, mobilité, main violente, défense de course. Il sait tout faire et c'est assez, quand il a envie, c'est assez létal comme arme. Pour moi, il y a deux problèmes. C'est qu'un, il a quand même l'air de physiquement être très limité vu qu'il ne joue jamais un match entier. Alors oui, il y a des rotations historiquement, de toute façon, dans des universités comme Georgia ou Clemson. Enfin, il semble quand même qu'il a du mal à jouer deux cartons d'affilée sans s'essouffler. Et il y a des cartons où j'ai l'impression qu'il n'a juste pas envie. Je ne sais pas si c'est une question de mental ou justement qu'il est cramé physiquement, mais je trouve que, ouais, il est au-dessus des autres, deux cartons sur quatre. Et du coup, je ne suis pas sûr que... on le voit beaucoup tomber au premier tour dans les mocks. Je ne suis pas sûr que j'ai envie d'un joueur comme ça au premier tour. Et pour le coup, je sors juste une minute du débat, j'ai plus envie de tenter un Travis Jones que de tenter un Jordan Davis, personnellement.
Ouais, Travis Jones, defensive tackle de Connecticut, hein, qu'on avait vu notamment se mettre en évidence. Aux yeux du grand public, en tout cas à l'occasion du Senior Bowl, hein, malheureusement, la saison du UConn également ne lui a pas forcément permis d'être sous le feu des projecteurs, autant que les deux joueurs de Jordan dont on va parler. Mais je te rejoins, en l'occurrence, ce sera un premier tour en puissance, très clairement, Travis Jones. Alors, du coup, c'est quoi cette différence principale avec Devante Wyatt ?
Je dirais que Devante Wyatt, c'est plus pour moi... en fait, ça dépend ce qu'on en attend et où on les sélectionne, en fait. Dans le sens où Devante Wyatt, c'est explosif, lui aussi, pour le coup. C'est un peu plus un blitzer, c'est un peu plus un joueur justement où tu en attends des éclats plutôt qu'un joueur constant sur tout un match. C'est un moins bon pass rusher dans le sens où pass rusher pour un defensive tackle, ça ne veut pas forcément dire faire des sacs. Tout le monde n'est pas Aaron Donald, mais ça veut dire déranger la ligne pour permettre à tes edges de faire des sacs. Et ça, pour le coup, Jordan Davis, c'est plus quelqu'un qui va déranger. Et Devante Wyatt, c'est moins quand même un phénomène physique que peut-être Jordan Davis. Donc, je dirais que c'est un joueur moins risqué parce que sur tout un match, il va apporter son explosivité, il va participer au blitz, il va faire les actions, mais il va quand même moins impacter la ligne offensive quand il est sur le terrain. Donc, pour le coup, c'est un joueur, c'est un bon defensive tackle numéro 2.
Je vais donner mon avis après, mais pour toi, le plafond le plus haut, enfin, en tout cas, est-ce que pour toi, il y a, enfin, je vais reposer ma question. Qui a pour toi déjà quasiment atteint son plafond entre ces deux hommes ?
Les deux. Ben non, mais c'est vrai.
Ah, je pensais qu'il était Picard, non, il est normand en fait.
Non, mais pour le coup, les deux, après. Je pense que Jordan Davis est plus talentueux. Par contre, je pense qu'il sera limité. Il sera toujours limité par ses problèmes d'endurance. Il ne peut pas avoir l'impact physique qu'il met sur une action sur tout un match. Donc, je pense que Devante Wyatt a plus de chances d'avoir une longue carrière, une productive carrière que Jordan Davis.
Alors, si tu veux... Ce qui est intéressant, globalement, je rejoins là encore ce que tu dis. Hein. L'idée, c'est pas de vouloir être contraignant juste pour le principe. Globalement, je pense que les qualités et les défauts de Jordan Davis, on les connaît. Je pense que c'est un excellent all-plugger. Je ne sais pas si c'est le bon terme pour reprendre l'expression anglaise qui est consacrée. Mais voilà, ou un gap-plugger, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, quelqu'un vraiment qui va se charger d'être... le point de fixation, on va dire, sur la ligne défensive qui va permettre d'ouvrir des brèches à côté. Et du coup, très clairement, c'est vrai que, comme tu dis, on ne le voit peut-être pas aussi souvent qu'on pourrait le voir, mais quand on le voit, généralement, ça fait beaucoup de dégâts. Ça vaut ce que ça vaut aussi, vu le gabarit du bonhomme. Zéro plaquage manqué en 2021. Donc très clairement sur le run stop, voilà. Même s'il a souvent des joueurs sur le rab, et même si j'imagine que les coureurs, ils les voient pas forcément aussi souvent que ça. Au moins, tu sais que quand ça passe dans sa zone, ça passe pas. Moi, en fait, le truc, c'est que tu l'as dit, c'est très clivant pour Jordan Davis dans le sens où je rejoins ceux qui sont très sceptiques sur une sélection en top 10 ou top 15. Parce que de toute façon, encore une fois, sur un joueur qui est pas sûr de jouer sur trois snaps, en tout cas sur une base assez régulière, ça me paraît un pari extrêmement risqué. Maintenant, fin de premier tour, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait. D'autant plus qu'on sait que la NFL est quand même une copycat league et qu'on a par exemple vu que du côté des Bengals, et je trouve que c'est un joueur qui me rappelle beaucoup Jordan Davis, DJ Reader, quand il est capable, même quand on lui demande de jouer un petit peu plus, ce qui a été le cas notamment avec la blessure de Larry Ogunjobi, on voit qu'il est capable de performer. Alors, DJ Reader, voilà, c'est un joueur qui a été drafté assez bas en sortie de Clemson, qui s'est développé petit à petit. Ça a mis un petit peu de temps, donc ça ne veut pas dire que Jordan Davis cassera la baraque dès sa première saison. Mais j'ai pas de mal à me dire qu'une équipe NFL va peut-être être tentée justement par un profil extrêmement atypique sur la D-line. Un espèce de profil un peu générationnel à la Ndamukong Suh ou ce genre de joueur vraiment capable de casser des baraques, même si là-dessus on est d'accord à 200%, malheureusement il n'y a peut-être pas un investissement suffisant. Et d'ailleurs c'est souvent reproché aussi à un autre joueur que j'adorais à sa sortie d'université, c'est aussi reproché à Derrick Brown par exemple du côté des Panthers, c'est malheureusement son manque d'investissement régulier, alors qu'on sait que globalement c'est un joueur qui peut être vraiment une pépite en NFL. Mais voilà, c'est ce type de profil là, ça s'est beaucoup vu. Enfin, je vais pas prendre 40 exemples non plus, mais on a vu Ainsworth par le passé également qui avait toujours cette petite problématique. C'est sûr que c'est une épée de Damoclès au-dessus de la franchise NFL qui va le drafter. Devontae Wyatt, pareil, je vais pas répéter ce que tu as dit, mais voilà.
Bah, c'est Larry Ogunjobi, hein. Si on continue,
ça peut être Larry Ogunjobi, ouais.
Si on continue ta comparaison avec les Bengals.
Voire plus BJ Hill, hein, en l'occurrence. Plus de BJ Hill des Bengals, en l'occurrence. Parce que c'est vrai que là, c'est sûr qu'il y a une variété extrêmement intéressante, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où il va jouer plus de snaps, il peut faire beaucoup plus de choses. En termes de plaquage pour perte, je trouve que voilà, quand il arrive vraiment à se dégager de la pression, il peut faire beaucoup de dégâts là-dessus. Donc, très franchement, c'est un profil extrêmement polyvalent. Je ne sais pas s'il vaut un premier tour, parce que je l'ai vu apparaître sur certaines mocks. Je ne sais pas si franchement il vaut un premier tour. Mais je trouve qu'il y a quand même une densité intéressante pour ce type de lineman défensif. Autre question d'ailleurs, Devontae Wyatt, plutôt 43 ou 34?
Plutôt 43.
Parce que du coup, du côté de Georgia, c'était assez hybride.
Oui.
Officiellement, oui, c'était censé être une 43, mais du coup, avec la présence de Walker, ça ressemblait quand même plus à une 43 quand même. Mais donc, plus 43 pour toi?
Plus 43, mais pour le coup, Wyatt, je trouve plus adaptable. Après, tu sais, ce côté distinction 3-4, 4-3, je la trouve, au niveau des defensive end, elle est toujours forte. Mm-hmm. Au niveau des defensive tackle, je la trouve de moins en moins tranchée, dans le sens où on voit quand même de plus en plus des gros dont peut-être on se serait dit il y a 10 ans, c'est forcément un ose.
Ouais.
Qui se retrouve à être des 1 technique en 4-3. Donc, la frontière me paraît plus fine qu'elle l'a été à une époque au niveau des defensive tackles. Mais c'est vrai que oui, dans une 3-4, je verrais plus un Jordan Davis, là où je verrais plus un Wyatt dans une 4-3.
Et alors, c'est peut-être que le raisonnement ne sera pas suivi par beaucoup, mais moi, c'est vrai que je vois plus en 4-3 dans le sens aussi où je me dis que c'est un joueur, je pense. Ça aussi, c'est difficile à quantifier, on va dire, mais c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de points d'interrogation aussi sur le fait de savoir s'il a profité ou pas justement du travail de Jordan Davis à côté. Parce que
surtout profité de Travon Walker. Mais...
Ah bah écoute, on en reparlera tout à l'heure. Mais parce que je regardais, mine de rien, c'est vrai qu'on dit que Jordan Davis joue pas beaucoup de snaps. Il y a 45 snaps de différence entre les deux. C'est pas non plus un monde, même si Wyatt a manqué un match cette saison. C'est pas un monde absolu, donc voilà, ça veut dire aussi que l'un a pu performer grâce à l'autre. On va pas trop développer, on aura largement l'occasion de le faire prochainement. Avant d'ouvrir notre chapitre sur les edges, Victor, on va s'intéresser donc, on va dire, à une position de plus en plus sexy, le côté un peu hybride linebacker safety. On va dire hein, des joueurs un peu habiles et dans et au niveau de la botte et au niveau de la boîte. Tu vois, j'ai voulu parler de la boxe et j'ai parlé de la botte. Hein, mon anglais me rattrape de nouveau. Donc des joueurs performants dans la boîte et sur la couverture. Et du coup, on va s'intéresser notamment au poste le plus séduisant, le plus attrayant, on va dire, pour les équipes NFL et surtout les plus profonds, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de profondeur sur les deux positions respectives. On va planter les corps tout de suite. C'est vrai que linebacker, on l'avait dit, il y a quelques joueurs intéressants, notamment au premier tour. On peut peut-être se mettre d'accord. Hein. A priori, Devin Lloyd et la Kobe Dean, ça tient toujours la corde, très clairement.
Oui, là-dessus, on est d'accord.
Avec Christian Harris, peut-être en embuscade.
Avec
j'avais oublié. Mince, j'avais oublié. Avec d'autres joueurs derrière. Niveau safety, on a Kyle Hamilton, bien entendu, largement au-dessus. Et derrière, on va dire quelques profils intéressants d'ailleurs. C'est ça, où, parce qu'on a un peu les safety traditionnels entre Brisker et Sean et les joueurs un peu plus hybrides entre Hill et Petrie. Donc c'est vrai que ça va être intéressant à suivre là-dessus. Déjà, d'un point de vue intrinsèquement qualitatif, laquelle t'attire le plus?
Si on considère...
Je parle pas de profondeur, hein, je parle vraiment ouais. de si tu choisis au premier tour. Laquelle,
ah, au premier
laquelle...
tour.
Bah, on prend plus le postulat du premier tour. Est-ce que tu vas plus sur un safety ou plus sur un linebacker, sachant qu'a priori, le meilleur joueur du plateau est un safety, mais que du coup, tu as peut-être plus de choix sur le poste de backer.
Le meilleur joueur est un safety, mais deux des trois meilleurs joueurs sont des linebackers. Donc, pour le coup... J'irais plutôt vers linebacker, au sens où, après ça dépend évidemment toujours des schémas, mais je pense qu'on a, il y a 20 ans, le middle linebacker était peut-être la star, enfin en tout cas les linebackers faisaient partie des stars d'une défense. Mmh. Là on a eu quelques années où on a l'impression que ça sert à rien, on appelle ça des codes Jim Schwartz. Mais pour le coup,
c'est, maintenant les stars c'est les Sam.
Les stars c'est les Sam.
C'est,
oui.
C'est les joueurs à 1,88, 1,90 que tu peux utiliser dans n'importe quel n'importe
en attendant, justement. Est-ce que les Buccaneers gagnent le titre sans Lavonte David?
Ah non.
Sans Devin White.
On est d'accord là-dessus.
Bon voilà, donc enfin même si Devin White, bon du coup ça rejoint un peu, mais ce que je veux dire c'est que. Je pense vraiment que les linebackers ne sont pas assez vus par rapport à leur valeur et ils ont une valeur qui est au moins égale à celle de safety. Et autant, bon, Hamilton, il y a quand même un gap derrière. Il y en a un que j'adore, mais je pense quand même qu'il y a un gap. Alors que Dean et Lloyd, tu me les mets au premier tour, je me dis, ouais, c'est un choix de riche, quoi. Donc, je dirais que linebacker est la classe qui m'intéresse le plus. Et même en termes de profondeur, même si je regarde au troisième, quatrième tour, je vais plutôt partir sur linebacker parce que je pense qu'il y a plus de profondeur et plein de profils intéressants.
Alors juste le temps qu'on parle là-dessus, en termes de profondeur du coup, si je prends ta logique, running back,
okay.
Sur quelle position tu te dis, ça ne sert à rien, ça rejoint peut-être la première question en l'occurrence, quelle position tu te dis, ce n'est pas la peine forcément que je me presse puisque je sais que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de choix. Mmh. Est-ce que forcément, linebacker, ça reste dans cette idée-là ou est-ce que
non.
T'es plus attiré par le côté safety?
Mais non, c'est très intéressant comme réflexion parce qu'en effet, je pense vraiment que passer le milieu du troisième tour, au niveau des safety, ça va devenir compliqué de trouver une pépite. Mmh. Tandis qu'au niveau des linebackers, je pense que tu peux trouver du solide encore au quatrième et au cinquième tour.
Tu as quelques exemples pour qu'on donne. Alors, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de faire du name dropping, mais au moins, ça permet d'étayer un petit peu, d'ouvrir un peu plus d'autres profils qu'on n'a pas forcément présentés dans les premières previews.
Ouais, bah, après, ça dépend évidemment où on peut avoir des surprises. Mais
Léo Chenal, par exemple, de Wisconsin.
Ouais.
Je t'ai coupé. Léo Chenal de Wisconsin, ouais, tout à fait.
Oui, pardon. Oui, Chad Mumma de Wyoming, effectivement. Léo Chenal de Wisconsin. Damone Clark de LSU, Troy Andersen de Montana State, Terrell Bernard de Baylor. Il y en a forcément un ou deux de ceux-là qui vont tomber au quatrième tour. C'est comme ça, on ne peut pas prendre tous les joueurs. Il y a un moment, faire des choix. Donc, c'est des joueurs qui méritent tous au troisième tour, mais il y en a qui vont tomber parce que tu ne prends pas 15 linebackers au troisième tour.
Oui, c'est parce que ce n'est pas la position la plus glamour et que tu prioriseras toujours…
Donc, du coup, je pense qu'au quatrième tour, tu as encore beaucoup de monde. Alors que pour le coup, Au niveau des safeties, si Hill, Brisker, Sine et Pitré sont partis, ah ben là tu commences à faire un peu la grimace parce qu'il y a des joueurs, non, il y a des joueurs intéressants, mais quand même il y a un gap qui me semble,
oui, qui nécessite peut-être
fort,
plus
quoi.
De développement, ouais. Peut-être des joueurs dont il va falloir attendre un peu plus longtemps pour en obtenir, ouais, le plein potentiel.
Complètement. Donc pour le coup, une fois que tu as passé ces cinq là, tu prends un vrai risque.
Oui, oui, très, très clairement. Justement, donc pour toi, au niveau des safeties, c'est les cinq que je t'ai cités qui tiennent la corde. Tu n'en vois pas d'autres éventuellement qui…
Hamilton, Hill, Brisker, Sine, Pitré. Pour moi, c'est dans l'ordre que vous voulez. On fera un ordre peut-être après, mais c'est le top 5.
McKinley peut-être un peu en retrait, même si on l'avait dit, McKinley, c'est très… Comment dire ça ? De manière polie. C'est très unidimensionnel, on va dire. C'est très couverture, mais pas forcément plus.
Ouais, 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 mais oui.
Pour le safety moderne, j'entends. Hein. Encore une fois, ce n'est pas d'évaluer le potentiel du garçon. Ce n'est pas un profil à la Javon Holland, par exemple, si on prend l'université, la même université.
Non, clairement. Non, voilà. McKinley, j'ai loin pour le coup. Moi, vraiment, c'est ces cinq-là. Et après, on discute de l'ordre entre 2 et 5.
Donc, linebacker, du coup, si ce n'est pas Christian Harris, son troisième, c'est qui?
Je faisais la moue dans le sens où tu disais le troisième, c'est Christian Harris.
Bah, on sait qu'il a fait une campagne de play-off, notamment, qui lui a permis de grimper dans la hiérarchie, de se dire on passait d'un deuxième tour, d'un milieu fin deuxième tour, à un potentiel début deuxième tour, voire mieux.
Oui, non, mais encore une fois, je n'exclus pas qu'il puisse être troisième. Je pense juste qu'il va y avoir des discussions. J'attends notamment de voir des Chad Muma et des Damone Clark comment ils fonctionnent au combine. Parce que linebacker, c'est purement une position où si tu as un mec qui vraiment écrase tout au combine, ça peut le faire grimper d'un tour en clignant des yeux, quoi. Donc, je dirais que oui, aujourd'hui, le plus probable, c'est que Christian Harris est le troisième linebacker de cette draft. Par contre, pour moi, c'est pas discuté au premier tour, c'est discuté au second.
Oui, toujours en dehors du premier tour, il y a un joueur dont on parle pas beaucoup et je pense dont les qualités athlétiques vont être très scrutées au combine, c'est Brian Asamoah d'Oklahoma.
Oui, Brian Asamoah d'Oklahoma, je ne sais pas quoi en faire personnellement. Et le combine va apporter quelques réponses pour lui, ça c'est sûr.
Tout à fait. Bon, en tout cas, ta classe la plus profonde, si on prend les deux, ce sera globalement linebacker. Je ne suis pas
loin de te
rejoindre. C'est vrai qu'il y a d'autres joueurs. Parmi les autres joueurs qu'on pouvait citer, il y a plein de cas, on va dire. Cas de conscience entre guillemets sur des joueurs de même position au sein du même université. Dans ces cas-là, j'aurais pu te sortir Brandon Smith et Ellis Brooks très clairement parce qu'on va se répéter, mais Brandon Smith, c'est vraiment le profil sur lesquels vont triper les équipes NFL. Le joueur, on va se dire waouh, le gars, c'est un monstre, il va pouvoir faire plein de choses. Et quand tu regardes les vidéos, quand tu regardes les matchs de Penn State et l'apport qu'a eu un Ellis Brooks sur le deuxième rideau, tu te dis le gars, il est plus petit. Il est peut-être plus trapu, il est peut-être moins agile, mobile, tout ce que tu veux, mais tu sens que c'est un mec qui va être à fond sur quatre cartons. Et c'est vrai que là aussi, ça fait partie de ces cas de figure où tu as peut-être un titulaire solide qui va être drafté au deuxième tour, mais qui ne va pas forcément apporter mieux. Il y a un joueur qui va être drafté pour reprendre ta logique en quatrième ou cinquième et qui va, pourquoi pas, flirter. Alors, encore une fois, je m'avance un peu, hein, mais… qui peut flirter avec un Pro Bowl ici ou là. Enfin, voilà, c'est vraiment ce type de profil-là où tu te dis, c'est vraiment l'opposition typique entre le profil purement athlétique et le joueur besogneux qui va être capable d'élever son niveau. Mais en tout cas, on le souhaite à Ellis Brooks. Hein,
mais même à Georgia, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Quay Walker et Channing, oui, Tindall, par exemple, c'est intéressant aussi. Donc,
alors, je dois reconnaître, mais à culpa peut-être de mon côté. Je sais qu'il y a une petite effervescence dans la rédaction concernant Trey Walker, Quay Walker, sur le fait que ce soit un linebacker susceptible d'être drafté quand même assez haut, enfin en tout cas de pouvoir performer assez haut. Et j'avoue que pour l'instant, ça ne me saute pas aux yeux. Il y a peut-être ce truc où je suis peut-être un peu trop en extase sur les joueurs autour, donc j'ai du mal à vraiment qualifier plutôt, et valoriser vraiment le niveau du bonhomme. Mais ouais, c'est vrai que les linebackers sortis de Nakobe Dean, j'ai du mal à me dire que
c'est des joueurs très
athlétiquement et en poursuite, oui, ils sont capables de bonifier le travail qui est fait par les joueurs à côté, mais je ne sais pas s'ils sont capables d'être excellents dans beaucoup d'autres domaines. Ça vaut pour Walker et pour Tanik Tindall aussi. Hein.
La défense de Georgia, ouais, enfin Tindall, pour le peu qu'il a joué, c'est encore plus un pari, mais... Mais pour le coup, la défense de Georgia, au global, c'est très compliqué. Quand tu as un groupe où tout le monde est au-dessus des autres, où tout le monde domine, bah, lesquels font dominer lesquels, c'est compliqué. Je pense que Walker, il a la chance d'être bon en couverture. Et finalement, ce n'est pas tant le cas dans cette classe. Donc, ça jouera pour lui. Mais pareil, je vois dans des top 50, etc., pour l'instant, pour moi, il est très bien au troisième tour.
C'est typiquement le genre de cas de figure à la Monty Rice l'année dernière, qui avait été drafté au troisième tour hein, par les Titans, bon, qui a pas forcément eu énormément de temps de jeu du souvenir que j'en ai. Hein. Je connais pas tous les snaps sur le bout des doigts, mais il me semble pas que c'est un des plus utilisés du côté des Titans, hein, parce qu'ils ont même récupéré Zach Cunningham en cours de saison. Mais oui, on est typiquement dans ce profil-là, c'est-à-dire un joueur dont on espère que de par sa polyvalence, son apport sur l'équipe spéciale, il pourrait être intéressant, mais pour qui ce n'est pas forcément flagrant à sa sortie d'université.
Juste une petite question avant qu'on referme ce chapitre. Mm-hmm. Pour toi, tu as un clair safety numéro 2 ?
Moi, je t'avoue que si j'aime Brisker pour les mêmes raisons qu'Ellis Brooks, mm-hmm. parce que je trouve qu'il y a du cœur, il y a de la volonté, il y a... Peut-être que sur la couverture, il ne sera pas parfait, mais je trouve qu'il est vraiment capable d'avoir un volume de jeu extrêmement intéressant. Ce n'est pas un de mes joueurs préférés, mais je ne sais pas pourquoi. Tu vois, on reprend l'exemple du profil athlétique. Jalen Pitchwee, ça pue le premier tour.
Bah, moi, c'est entre ces deux-là. C'est entre ces deux-là. Je ne sais pas quoi en penser. Parce que Jalen Pitchwee, ou Pitri, je ne sais pas comment on prononce, mais il a cette chance de passer après des Isaiah Simons, des gens comme ça. Donc, c'est un peu la mode, ces joueurs linebacker, safety, hybride, parce que lui, finalement, tu peux presque imaginer que sur des sub-packages, il soit linebacker, enfin, à la Malcolm Jenkins ou des choses comme ça. Donc, ouais, Pitri, je pense qu'il va finir très haut.
Oui, on rappelle, hein, c'est, le bémol pour lui, c'est toujours la taille. Par rapport justement à des profils que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est sur 1m83, donc forcément ça complique un petit peu la donnée, enfin, dans l'esprit peut-être un peu des fois réducteur des équipes NFL, mais très clairement, oui, je te rejoins, là aussi pour le coup, il y a un volume et une rapidité, je trouve, qui est non négligeable et qui, pour brouiller les cartes du quarterback adverse, sont clairement pas à prendre à la légère.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On passe au Edge, du coup, et on va reparler de Trevon Walker, parce que, alors, on l'avait dit au sortir du Senior Bowl, Jermaine Johnson, notamment de Florida State, avait marqué beaucoup, beaucoup de points. Un gros nom qui ressort beaucoup également ces dernières semaines, c'est Trevon Walker. Et du coup, on est en droit de se demander si le troisième Edge rusher au niveau de la hiérarchie qui nous était présenté depuis des mois et des mois, à savoir George Karlaftis, le joueur grec de Purdue, on est en droit de se demander si cette hiérarchie, pardon, peut être bouleversé. Alors déjà, avant qu'on s'avance un petit peu là-dessus, qu'est-ce que tu vois à peu près comme qualité, justement, puisque tu nous les vantais tout à l'heure, sur Trevon Walker et dans un second temps sur Jermaine Johnson, le joueur de Florida State et ancien de Georgia en l'occurrence?
Oui, tout à fait. Trevon Walker, déjà, j'ai du mal à l'appeler Edge. Moi, je l'appelle lineman défensif. C'est un peu comme de Marvin Leal. J'ai l'impression que selon ton système, il pourrait jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est un joueur athlétique. Il est du coup polyvalent. Même en couverture, il était intéressant. Il y a des fois, il était détaché en couverture. Il était loin d'être inintéressant. Il est explosif. Il est rapide. Par contre, ça manque encore de puissance. C'est-à-dire que vous attendez pas à ce qu'il bull rush le mec en face. Il va jouer plus sur sa vitesse. Et du coup, ça passe de façon aléatoire, quoi. Donc, je pense pas que ça puisse être une machine à sac, pour le coup. Ça peut être un joueur solide, qui tient son côté, qui participe au pass rush, qui participe à la défense de course, mais je vois pas comme une machine à sac. Après, c'est vrai que ce qui fait un peu, en ce moment, ce qui nous fait nous interroger sur lui, c'est qu'il y a deux journalistes qui s'appellent Daniel Jeremiah et Dane Brugler, qui sont des mecs connus pour faire leur top 50 en fonction de ce qu'ils aiment et aussi en fonction de ce qu'ils pensent, qu'ils entendent des GM. Et ça fait partie des deux qui ont le plus l'oreille proche des GM pour entendre des murmures, etc. Et d'un coup, on a vu Walker passer de 60-70 à 25. Et on se dit, ah, à mon avis, pour que les deux, la même semaine, le même jour en plus, donc ils ne se sont pas concertés, le mettre si haut, c'est que ça doit quand même commencer à parler dans les front office et à dire on adore ce joueur.
Oui, alors après, je vais t'essayer de développer après sur Johnson. Moi, très clairement, ce qui m'embête avec Trayvon Walker au jour d'aujourd'hui, surtout avec la défense aussi dissuasive que pouvait l'avoir Georgia, c'est que pour moi, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur potentiellement le joueur qu'on peut mettre un peu partout, c'est un des meilleurs edge setter de cette classe. C'est-à-dire qu'en termes de jeu contre la course, là aussi, je pense qu'il n'y a peut-être pas le 0% de Jordan Davis, mais tu sais que voilà, globalement, le jeu au sol peut être efficacement contrecarré avec Trayvon Walker sur la ligne défensive. Il me rappelle beaucoup, alors pas du tout en termes de densité physique, parce que là, on parle d'un mammouth, hein, Trayvon Walker, hein, c'est un joueur qui est... un joueur qui est assez, pas autant que Jordan Davis, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très, très grand, très, très longiligne. Je trouve que dans son utilisation, il y a un côté un peu Brandon Graham, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, en termes de pass rush, ne me paraît pas encore abouti, mais tu sais qu'à terme, ça peut être un joueur qui peut avoir un gros, gros volume de jeu et qui peut te servir dans énormément de domaines. Donc c'est là-dessus, je trouve qu'on est beaucoup sur de la projection, mais c'est aussi sur de la projection qu'on drafte les profils en NFL.
Ouais, après, il faudrait prendre un peu de masse quoi, pour devenir Brandon Graham, comme tu disais, mais ouais, on va dire que Brandon Graham, c'est le corps de Carl Aftis avec le jeu de Trayvon Walker.
C'est ça.
on va faire un mix, tu sais. on va mélanger les joueurs. Et,
on devrait faire une nouvelle chronique.
Comparaison croisée. ça serait rigolo. Donc, ouais, le problème, en fait, c'est qu'il est tellement polyvalent, tellement entre deux, que je ne sais pas si tous les coachs sauront quoi en faire, en fait. C'est un peu ça, mon problème.
Oui, très clairement, je pense que ça peut être dit bêtement pour beaucoup de joueurs, mais je pense que l'environnement va être très, très important pour Trayvon Walker. Ça peut être un joueur qui peut exploser très, très rapidement, comme qui peut mettre 3 ou 4 ans.
Comme ça peut devenir Clayton Ferrell, quoi.
C'est ça.
Dans le sens, un joueur utile, oui. mais qui n'a jamais été au niveau de la hype. Bon, c'était un choix surprise, mais il est quand même quatrième choix de draft, hein, si je ne dis pas de bêtises, Clayton Ferrell. Bon, voilà, ça reste un joueur utile. Je ne suis pas en train de dire qu'il est mauvais. Hein. Ferrell, il fait son boulot, mais ce n'est pas sensationnel. J'ai peur que Trayvon Walker tombe un peu dans ce purgatoire s'il trouve pas rapidement un rôle et un schéma qu'il mette en valeur.
Jermaine Johnson,
alors là, c'est plus un edge traditionnel, si on veut, très athlétique, peut-être même encore plus athlétique que ce qu'on pourrait en attendre vu ses dimensions. Il est rapide et intelligent. C'est-à-dire qu'il se projette rapidement vers l'avant, mais il ne va pas le faire à tout prix. Et du coup, il identifie très rapidement les situations de run. Et du coup, quand il faut participer au jeu de course, il est là. Mais sa force principale, c'est que lui, pour le coup, a le potentiel d'être une machine à sac. Il a l'instinct. Il sait utiliser sa puissance. Bien sûr, il joue plus sur sa vitesse que sur sa puissance. Mais pour le coup, il sait manier les deux. On a un échantillon très limité, puisqu'à Georgia, globalement, il jouait très peu, hein, on va dire. Là, cette année, par contre, il a joué, je pense, quasiment tous les snaps de Florida State. Enfin, tu ne le voyais jamais sortir du terrain. Donc, d'un côté, certains diront qu'il est frais et qu'il ne va pas être usé par 4 années titulaires en NCAA comme certains. Mais c'est vrai qu'il a montré cette année que dans le bon schéma, lui, il peut enchaîner les sacs et il a une appétence pour ça. Et pour le coup, tu vois, on parlait, tant pis, hein, je continue les comparaisons Eagles, mais tu parlais de Brandon Graham pour les deux autres. Là, on a Josh Sweat, si tu veux.
Ah ouais.
Je pense que d'ailleurs, les dimensions doivent être à peu près similaires. Mais les dimensions doivent être similaires, hein, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je dirais, on a Josh Sweat, donc le joueur pas le plus puissant, mais s'il arrive à utiliser sa rapidité, ça peut le faire. Et pour le coup, je pense que Johnson est plus mature que d'été Sweat, qui Sweat finit au quatrième tour, si je ne dis pas de bêtises. Je devrais le savoir, mais pour le coup, Johnson, il est quand même plus mature. Tu sens que même s'il n'a pas forcément beaucoup joué à Georgia, il a beaucoup appris là-bas. Et quand il a pu l'appliquer sur le terrain à Florida State, bah là ça déroule.
Oui, non, mais voilà, pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que ce qui est intéressant avec Jermaine Johnson, c'est que cette polyvalence, très clairement, on en parlait tout à l'heure avec Trevon Walker, mais on la retrouve avec Jermaine Johnson, mais de manière beaucoup plus productive encore. C'est dans le sens où c'est un joueur qui a joué outside linebacker donc du côté de Georgia, qui était defensive end plus traditionnel à Florida State, qui a montré qu'il avait une bonne variété de moves, qui pouvait être efficace contre la course et contre la passe. Donc c'est vrai que c'est aussi tous ces éléments-là qui font que, là pour le coup, au contraire de Walker, je trouve, l'environnement, tu as presque envie de te dire, bah, presque peu importe, tu le mets et puis tu vois vraiment comment tu peux le optimiser son talent. Mais il y a peu de choses qui sera éventuellement ne pas faire, qui ne sera pas faire plutôt à l'échelon supérieur. Donc c'est en ça que pour moi c'est un profil extrêmement intéressant. Alors, je vais poser la question tout de suite. Du coup, si on compare à George Karlaftis, qui je trouve, alors ça lui a été beaucoup reproché peut-être le côté un peu pass rush, en tout cas peut-être son gabarit tout simplement. On sait que c'est un joueur qui est très puissant avec un gros moteur, mais dont on ne sait pas trop si vraiment sur une base assez régulière, il aura cette, on va dire cette vivacité suffisante, justement cette capacité à étayer un peu plus son jeu pour être menaçant sur le long terme en NFL. Est-ce que pour toi, Karlaftis reste ton pass rusher numéro 3, éventuellement derrière Thibodeau et Hutchinson? Et du coup, si ce n'est pas le cas, qui as-tu d'autre?
J'ai vraiment épaule contre épaule Karlaftis et Johnson, que pour l'instant, j'ai 11 et 12. Je continue à avoir Walker un peu derrière, même si j'ai bien compris que le consensus commence à faire passer Walker devant. Moi, pour l'instant, je continue à l'avoir un peu derrière. Oui, Karlaftis, je suis sûr qu'au sortir du combine, on va dire qu'il a les bras trop courts. Ça m'énerve, mais bon, je suis sûr que ça va être le cas.
Le T-Rex de Grèce.
Le T-Rex, c'est ça. C'est sûr que c'est un joueur qui joue sur la puissance. Ça sera pareil, pas une machine à sac. Mais pour le coup, entre Karlaftis et Johnson, là, vraiment, enfin, les boards valent ce qu'ils valent. Mais ça dépend de ce dont tu as besoin, en fait. Si tu manques de sac, tu manques d'un vrai pass rush, etc., tu prends Johnson. Si ton problème, c'est plus d'enfoncer la ligne, de vraiment avoir un joueur impactant qui limite peut jouer trois techniques aussi, là, tu vas peut-être plus prendre Karlaftis ou Walker. Donc, ça dépend de ce dont tu as envie. Mais pour l'instant, j'ai quand même Walker un peu en dessous des deux autres.
Oui, je te rejoins. Pour moi, Walker est encore numéro 5. Et du coup, Johnson, je mets quand même Johnson devant Karlaftis. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, encore une fois, il y a une variété. De toute façon, c'est ce que j'avais mis dans la mock draft qu'on avait fait en live vidéo. Pour moi, par exemple, si en numéro 8, Atlanta doit choisir entre Johnson et Karlaftis, surtout avec Dean Pease qui aime bien des edge rushers un peu polyvalents, je pense que le prospect des Seminoles serait plus important, serait plus pertinent. Après, voilà, c'est le goût et les couleurs. Je pense que Karlaftis, dans une 43 bien ancrée, je pense que voilà, c'est plus en termes d'utilisation, encore une fois, que je pense que ça peut faire pencher la balance vers l'un ou l'autre. Mais je te rejoins, l'écart n'est pas si monstrueux que ça, en l'occurrence. Mais ce serait à peu près la même hiérarchie que la tienne. On en revient à la question subsidiaire, du coup, qui concerne les Edge. On avait fait la même pour les receveurs la semaine dernière. qui Bordeaux a son edge rusher assuré au premier tour? Déjà, on va commencer la première question avec les cinq dont on a parlé, enfin Hutchinson, Thibodeau et les trois du coup qui étaient concernés par ce débat. Les cinq au premier tour, selon toi?
Oui.
Je pense également. Est-ce que tu en as d'autres? Donne-nous un chiffre.
Je
pense que des chiffres, hein, si vous voyez.
J'en ai un autre qui, pour moi, est assuré d'être au premier tour.
Tu en as un seul autre, d'accord.
Je ne dis pas que ce serait mon avis, mais assuré pour le premier tour, j'en ai un seul.
Alors attends, je revérifie la classe, parce qu'en plus, il y a des profils un peu hybrides.
Oui, après, ça dépend de ce que tu mets. Des Marvin ouais, Leal, oui. Tu le mets en intérieur ou en edge?
Non, non, des Marvin Leal est en intérieur.
OK.
Donc, Logan Hall aussi, hein, je précise.
Ah, là, on ne sera pas d'accord, mais ça, c'est ça. On aura peut-être une autre émission pour en parler. Mais alors là, Logan Hall, pour moi, est un edge. Mais...
Très bien. Mais ce n'est pas lui, en l'occurrence, qui est au premier.
Non.
On a le même, je pense, un joueur qui connaît plutôt bien Aidan Hutchinson.
Ouais, qui nous vient du Nigeria puis d'Écosse.
Ouais, un joueur que tu aimes beaucoup également, je crois, en toute ironie.
Non, c'est pas que j'aime beaucoup ou pas beaucoup. C'est...
Tu penses que ses stats sont boursouflés? Mais on parle David Ojabo. Ouais.
Je pense que c'est le pari ultime. C'est le mec qui a joué 26 snaps avant la saison. Il a fait une saison extraordinaire, mais. Le truc, c'est que les équipes double-teamaient Hutchinson de l'autre côté, étaient concentrées sur Hutchinson. Et donc, Ojabo, il avait le champ libre, un schéma fait pour lui. Et du coup, ça a facilité sa progression. Par contre, sa production pour sa première année, il a commencé le football, je crois, il y a 5 ou 7 ans. Il a joué 26 snaps avant cette saison. Sa production est folle et ses capacités physiques sont folles. Donc, c'est un pari ultime. Ça peut être un all-pro comme ça peut être Deion Jordan. Donc,
il y a un côté de Jason Pierre-Paul dans David Ojabo. Il y a un côté de Jason Pierre-Paul dans David Ojabo.
Oui, aussi. Mais ça peut devenir tout un tas de joueurs. En fait, il est tellement modable que ça peut devenir tout un tas de joueurs. Et je le vois en 4-3, je le vois en 3-4. Je pense vraiment que c'est un joueur. C'est l'énigme absolue, mais il y a forcément une équipe qui va le tenter.
Ah oui, bah ça va être le contraire, m'étonnerait en effet. Est-ce que tu en as d'autres éventuellement qui seraient aux portes de ce premier tour? Il y en a beaucoup, hein, des candidats crédibles, mais en tout cas des joueurs dont tu te dis, ça je pense que l'équipe va le tenter. Moi je t'avoue que j'en ai un tout particulièrement. Ça pue la fin du premier tour aussi. Boye Mafe de Minnesota.
Ouais, j'allais dire lui ou Cameron Thomas.
Oui, pourquoi pas.
Mais en gros, tu veux dire qui sera le Peyton Turner de cette année, quoi. C'est ça que...
Ah, ça peut paraître un peu réducteur dit comme ça, mais non, en tout cas, hein, vraiment...
Ouais, Boye Mafe,
si on prend un Edge qui va crever l'écran et on va se dire, tiens, ce joueur-là... Parce que là, en termes de plafond, Boye Mafe, je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant à faire.
Ah bah, je pense que Boye Mafe va falloir être patient, parce que son impact sera probablement pas en année 1. Mais oui, il y a un gros potentiel et je ne suis pas choqué s'il est premier tour.
Oui, on a vu vraiment des belles fulgurances, des moves assez intéressants sur le pass rush. Mais oui, après, c'est vrai, il y a de la régularité à retrouver. Après, voilà, il y a d'autres profils, en effet. Moi, je suis très intrigué par Arnold Ebiketier. Je pense qu'il jouera beaucoup au Combine.
Ouais.
Kingsley Nagbaré, qui avait fait un bon senior ball.
Non, pour moi, c'est des bons second tours, mais alors là, j'ai du mal à aller voir.
Et alors, Drake Jackson, je sais que tu aimes bien ce joueur.
Ouais, j'aimais bien au milieu de la saison.
C'est ça, la saison c'est fini, j'ai compris.
Mijai Sanders, j'aimais bien la saison dernière.
Ah, bah oui, ouais, la Mijai Sanders, c'est, à mon avis, il y a petite dégringolade en prévision pour Mijai Sanders.
Et si je donne un dernier nom de mec qui peut, alors peut-être pas premier tour, mais qui peut être l'invité surprise, donc on va dire d'un. Top 40-45. Mais alors là, c'est grosse cote. Hein, mais,
oh oui,
mais...
je sens que tu vas nous faire rêver. Vas-y.
Sam Williams.
Oh, de Ole Miss. Oui. Donc pour toi,
ça peut...
Premier tour?
Non, j'ai dit 40-45.
Ah, pardon, autant pour moi. Oui. Je pense que pour moi, c'est un solide troisième tour à l'heure actuelle.
Oui, non, mais c'est ça, je dis. Mais
je pense
vraiment,
qu'il peut largement monter au taux. Oui, non, je te rejoins.
Le mec qui peut surprendre.
Oui, voilà. Tout à fait, ouais. On est d'accord, on a vu que vraiment, il a été un des principaux instigateurs, on dira, du renouveau défensif d'Ole Miss cette saison. Et voilà, on sait que c'est un joueur qui a eu quelques petits problèmes juridiques par le passé, mais bon, très clairement, quel joueur de football américain n'en a pas eu, hein? En grossissant un peu le trait. Mais non, non, voilà, après, on voit que très franchement, quand il est pleinement concerné, c'est un poison sur le front seven. Donc, très clairement, je te rejoins là-dessus, ça peut être un joueur à surveiller dans ce domaine. Des questions des auditeurs pour qu'on termine?
Et allez, on va terminer avec les questions des auditeurs.
Qu'on remercie de nouveau, bien entendu, pour leurs questions.
Ben oui, totalement. On a Chabadoutre qui nous demande Hutchinson ou Thibodeau.
Ah, l'éternelle question. On n'a pas fini de l'entendre, celle-là, je pense. Moi, je vais redire ce que j'ai dit, mais je continue de préférer Hutchinson. Je pense que Thibodeau a été desservi de par son utilisation du côté d'Oregon. Je ne sais pas, j'ai vu des mocks qui le mettaient en numéro 8 à Atlanta. Alors, très franchement, si Thibodeau tombe en numéro 8, sans être blessé, bien entendu, là j'en perdrais mon latin. Mais très franchement, non, je pense qu'au combine, c'est un joueur qui va marquer énormément de points. Tout dépend ce que recherche le numéro 1, et je ne serais pas loin de penser, par exemple, que les Jaguars auraient plus besoin d'un Thibodeau que d'un Hutchinson. Maintenant, en termes de talent brut et de capacité à être pleinement performant à l'échelon supérieur, en tout cas productif en termes de sacs, j'irais plus vers Hutchinson.
Ouais, moi, je change d'avis après toutes les semaines. Je pense que tu as bien résumé. Hutchinson, pour moi, est le numéro 1. Mais par contre, si je suis GM de Jaguars, je prends Thibodeau. Et Thibodeau, il est en train de descendre en 8, en 12, dans des mocks. Enfin, le manque de respect est total. Donc, ça reste
un deuxième top 2 tour bientôt, quoi.
Ouais, c'est ça.
On disait qu'on n'avait pas de respect parce qu'on ne mettait pas numéro 1 et maintenant, le gars, je le vois à limite
borderline. Après, tu as toujours la possibilité, Grégory Rousseau, hein, qui avait chuté comme ça après un pro day catastrophique. Ça peut toujours arriver, mais j'ai du mal à le voir.
Alors, quand tu vois le bonhomme, tu te dis qu'a priori, bon, le côté athlétique, ça doit être son truc. Quoi.
Du coup, Nakobe Dean ou Devin Lloyd?
Oh là, et ça, c'est des beaux dilemmes, hein, bravo.
Ah.
Pareil, je me suis vendu sur Twitter, mais Devin Lloyd, parce qu'il apporte beaucoup plus de choses, je pense ne serait-ce qu'en couverture, en capacité de rusher, etc. Mais Nakobe Dean, c'est... Ouais, c'est... Là, tu vois, je parlais de joueur avec du cœur tout à l'heure, c'est un joueur qui est peut-être moins athlétique que Lloyd, mais tu sens qu'il sait faire un nombre de choses absolument phénoménales. Donc, le cœur dit Dean, mais je pense que Lloyd partira.
La raison, le cœur, le cerveau, dit Lloyd, pour moi, je pense que c'est un joueur absolument complet. Et ce n'est pas faire un jeu à Dean. C'est vraiment, c'est un crush pour Lloyd. Je pense qu'il est absolument complet et impactant sur toutes les phases de jeu et qu'il mérite peut-être même un top 10, même si la valeur du poste fera qu'il tombera peut-être un peu plus bas. Mais on ne passe pas, monsieur Grégory Richard,
sur un joueur générationnel.
Il n'est pas générationnel. Hein, pour le coup, je taguerai que Hamilton de générationnel dans cette place.
Et du coup, je me posais la question, mais non, je ne sais pas. J'allais dire une bêtise. J'allais dire, je vois plus Nakobe Dean peut-être dans une 42 ou un truc comme ça, justement, par le volume qu'il est capable d'avoir.
C'est pas moi. Pour moi, la première équipe qui pourrait avoir besoin d'un linebacker, c'est Giants. Et je trouve que Devin Lloyd fit mieux le système Giants pour remplacer Blake Martinez, par exemple. Sauce Gardner ou Stingley, c'est une question de Charles Rouse. Alors moi, je vais la poser un peu différemment. Est-ce qu'on est d'accord que Sauce Gardner est incontestablement cornerback numéro 1?
Ah, il l'a toujours été pour moi cette saison.
On est bien d'accord. Bon, ouais. Là-dessus, toujours, je ne sais pas si au début d'année j'avais numéro 1, mais depuis novembre, c'est sûr.
Je pense que le débat est le même que pour Hutchinson Thibodeau, mais que la problématique est différente, dans le sens où tu l'as répété plus d'une fois. On parle d'un Stingley qui n'a pas suffisamment produit, notamment de par ses problèmes physiques. Et déjà, ça devrait quand même alerter sur un poste où, voilà, où tu es annoncé comme un press corner à l'échelon supérieur. Mais oui, très clairement, Garner, pour moi, il y a le côté production relative, parce que forcément, on a rapidement arrêté de lancer dans sa direction. Mais on voit que c'est un profil, voilà, c'est extrêmement complet. C'est ce que recherchent les équipes aujourd'hui en NFL. On ne peut pas me dire que Jeff Okuda était drafté numéro 3 à l'époque et me garantir dans la foulée que Gardner ne peut pas être top 5 de la draft. Je n'y crois absolument pas.
Je suis d'accord. Et dernière question, parce qu'on a dépassé l'heure, on parle vraiment trop, Grégory, quand on est ensemble. Kyle Hamilton ou une position premium dans le top 10. La question est donc, en gros, est-ce qu'on privilégie une position premium comme edge, comme cornerback ou comme offensive tackle, ou est-ce qu'on ne passe pas sur un joueur générationnel de type Hamilton ? Je crois que là-dessus, moi, je me suis un peu vendu l'année dernière sur Kyle Pitts. Je pense qu'on ne passe pas sur un joueur générationnel. Alors, quand tu as des edge comme Thibodeau, comme Hutchinson, OK, c'est prioritaire. Mais par exemple, les Texans en 3, pour moi, devraient faire le choix à Hamilton. Je ne pense pas qu'ils le feront. Mais quoique Caserio, l'école Patriots, la construction de la défense...
Oui, on voit que les choix sont un peu confus depuis son arrivée quand même.
Oui, mais tu sais, la construction de la défense par les defensive backs... ça a été fait aux Patriots, donc ils peuvent peut-être le faire aux Texans.
Alors, justement, alors, moi, je vais le dire, c'est vraiment purement subjectif. Hein. Il n'y a pas de truc de dire c'est largement mieux. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que renforcer la D-line est plus importante que les DB. Parce que de toute façon, dans 9 cas sur 10, je pense, tu auras des defensive backs qui auront beau être performants. Sur toute la durée d'un match, ils pourront pas être extraordinaires s'il n'y a pas un minimum de pression derrière.
Donc, Théo Roseman, quoi.
Si tu veux, écoute.
Bah, non, mais c'est...
Il a gagné un Super Bowl malgré tout. Hein.
Non, mais bah, il est très bien, Roseman. Ouais. Il a des qualités et des défauts, comme tout le monde.
Je suis de l'école John Lynch, même, je te dirais.
Oui, non, mais je comprends. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup
d'équipes...
John
Lynch était safety, hein, je le rappelle. Hein.
Il y a beaucoup d'équipes qui construisent des lignes avant tout. Et c'est vrai que ça s'entend largement. Après, la poule ou l'œuf, qui des defensive backs aide les linemen et linemen aide des defensive backs.
En fait, si tu veux, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que Calpit, j'entends ton discours dans le sens où un receveur, quel qu'il soit, alors en l'occurrence, on labellisait tight end, mais on l'a toujours dit que Calpit, il avait la capacité d'être dangereux à peu près partout. Mais il aura toujours cette production, je trouve, dans le domaine aérien. Même si on prend la logique, il y a pas de receveur sans O-line. Enfin, voilà, il y a pas de temps pour le quarterback pour lancer s'il n'y a pas de O-line. Mais en tout cas, on savait qu'il y aurait quand même cette production. Kyle Hamilton, il peut apporter dans beaucoup de domaines. Moi, je m'arrête que sur le jeu à la passe. Mais bien entendu qu'il est capable de renforcer la boîte, d'avoir cette qualité de poursuite, etc., qui seront indéniables en NFL. Mais c'est vrai qu'encore une fois, si je dois me poser la question entre un edge rusher, par exemple, et Kyle Hamilton... En fonction des besoins, moi, je suis plus dans l'école besoin en plus que joueur meilleur joueur disponible. Sauf si j'ai un crush, bien sûr, sur un joueur en question. Mais voilà, pour répondre à la question, j'irai plus sur un edge, par exemple, sur une position premium, si j'estime que j'en ai plus besoin que Kyle Hamilton. Le crush n'est pas assez marqué, mais je ne désespère pas que ça arrivera d'ici fin avril.
Ouais, moi, je suis plus meilleur joueur disponible, notamment parce que la free agency est avant la draft et que je pense que tes needs, tu dois les combler en free agency. Je parle pour les équipes qui jouent le titre.
Ouais, bien sûr.
Pour les équipes qui sont dans des reconstructions, c'est différent. Hein. Mais voilà, je pense que tes needs, c'est avant tout la free agency et la draft doit venir ajouter du talent aux positions. Mais bon, après... Comme tu l'as dit, il n'y a pas une bonne réponse, en fait. C'est cas par cas, ça dépend des équipes, ça dépend de tout ça. Donc, voilà.
Très bien. Bah, écoutez, on a fait le tour sur les questions ?
Yes !
Bah, écoute, merci encore à tous pour vos questions. Merci à toi, Victor, de nous avoir libellés, de m'avoir accompagné au cours de cette 490e édition du podcast Touchdown Actu. On se retrouve donc la semaine prochaine donc, pour un débrief du Scouting Combine, donc avec Jean-Michel et toi-même. On rappelle que la semaine suivante, il n'y aura pas de podcast pour faire un petit peu la part belle justement à la Free Agency qui va commencer notamment la semaine du 14 mars et que l'équipe draft, la rédaction draft reviendra notamment aux alentours de la troisième semaine pour justement une nouvelle mock draft qui rebondira justement sur l'actualité de la Free Agency. On essaiera de tirer les premières conclusions du marché des transferts.
Et les fiches qui commencent le 19.
Tout à fait, j'allais le préciser, les fiches qui commencent le 19. Et puis on aura également, je crois que c'est à partir du 26, les premiers podcasts audio. À partir du 26 mars, les fameuses capsules quotidiennes audio sur les différentes équipes NFL, donc 32 jours. Pour vous donner les principaux besoins et potentiellement les joueurs qu'il vous faut dans vos équipes de cœur. Donc, ce sera à retrouver à partir du 26, mais tu le disais, à l'écrit en l'occurrence, 80 fiches, deux par jour, donc, qui vous seront détaillées avec les points forts, les points faibles, les best fits, les meilleurs points de chute pour les prospects concernés. Donc ce sera à partir du 19, tu fais bien de le préciser. Pour te retrouver, Victor, sur les réseaux sociaux, hashtag Victor Roulier, hashtag Yellow Radio, ça pour moi-même, toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. À très vite sur les antennes de TDA.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDA. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDA. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.